Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. À l'heure des bilans de fin d'année, il est un fait majeur qui n'a peut-être pas été suffisamment souligné. En 2017, l'État islamique a connu des défaites à la mesure de ses précédents succès spectaculaires. Perte de Mossoul, sa capitale irakienne, au mois de juillet. Perte de Raqqa, sa capitale syrienne, en octobre. L'organisation ambitionnait de restaurer le califat. Elle est désormais privée de base territoriale, cette base qui lui permettait justement de revendiquer le terme d'État. Sur le plan militaire, le rapport de force est assez clair. Le gouvernement irakien a proclamé la victoire face à Daesh début décembre. En Syrie, ce sera le cas mi-février, selon les pronostics d'Emmanuel Macron. Pour autant, 2018 sera-t-elle l'année de la victoire totale contre le I. Sans doute pas. Si Daesh a perdu son territoire, il lui reste des combattants sur place, mais aussi dans d'autres pays, au Moyen-Orient et de plus en plus, semble-t-il, en Asie. Par ailleurs, l'idéologie qui est la sienne est devenue suffisamment puissante pour s'affranchir d'une structure centralisée. Bref, mieux vaut sans doute ne pas crier victoire trop tôt. Alors Daesh, après le chaos... Titre qui n'a absolument rien de radiophonique. Je vous laisse découvrir peut-être soit sur Twitter, soit sur notre site, la façon dont nous l'avons formulé. C'est en tout cas la base de la discussion que nous allons mener ce soir avec trois invités, à commencer par vous, Myriam Menrad, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure associée en sciences politiques à l'université de Leiden aux Pays-Bas, spécialiste du monde arabe et du Moyen-Orient. Vous avez publié en 2017, c'était au début de l'année, cher Armand Collin, l'État islamique pris au mot, et vous publiez dans quelques jours, ce sera le 4 janvier cette semaine, donc, Djihad, des origines religieuses à l'idéologie, idée reçue sur une notion controversée. C'est aux éditions du Cavalier Bleu. Pour discuter avec vous, Régis Le Sommier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, grand reporter, directeur adjoint de Paris Match. Daesh, vous lui avez également consacré un ouvrage, Daesh l'Histoire, c'était aux éditions de La Martinière en 2016. Et chez le même éditeur, vous publiez le 11 janvier prochain, Assad, qui raconte évidemment l'histoire de Bachar el-Assad. Je pense qu'on va avoir l'occasion quand même si ce n'est pas notre sujet direct ce soir, d'en parler. Puis notre troisième invité se trouve au téléphone, il s'agit de Gérard Chalian, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géopolitologue, spécialiste de l'étude des conflits armés. Vous avez publié, je vais citer deux ouvrages pour vous, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, Terrorisme et politique aux éditions du CNRS, c'était en janvier dernier, janvier 2017. Et puis La question kurde à l'heure de Daesh, au seuil en 2015. Alors je voudrais qu'on commence avec vous trois à faire peut-être un état des lieux de la situation militaire sur le terrain. Commençons par l'Irak, Myriam Benrad. Le 9 décembre dernier, le Premier ministre irakien Haider al-Abadji a annoncé la victoire face à Daesh. Est-ce que ce terme de victoire, d'abord, vous semble un terme approprié pour qualifier le rapport de force sur le terrain ?
Bon, le terme de victoire, il est tout de même stratégique pour le gouvernement irakien, ce d'autant que cette bataille a duré 3 ans et que, comme vous le précisiez très justement en introduction, on revient de loin, enfin les Irakiens reviennent de loin. Il y a quand même eu 40% du territoire national qui est passé aux mains de l'État islamique en 2014. Donc à chaque bataille, le gouvernement irakien a eu cette rhétorique de victoire, de triomphe. C'était aussi finalement quand même pour Haider al-Abadi, l'actuel Premier ministre, une question de légitimation de son pouvoir, de rassemblement des Irakiens autour de cette bataille qui a quand même aussi qui leur a coûté très cher en termes de pertes humaines, matérielles, en termes symboliques. Donc maintenant au niveau de l'État militaire, très clairement, en tout cas du côté irakien, l'État islamique aujourd'hui a une présence extrêmement réduite. Quand je dis qu'elle est réduite, l'État islamique est toujours présent. Il est retombé dans la clandestinité, mais enfin, il revendique un certain nombre d'attaques quasi quotidiennement. On voit déjà plus ou moins dans certains territoires dits libérés un regain d'activité insurrectionnelle. Les opérations militaires en réalité se poursuivent, mais indéniablement, l'Irak a repris la main. Ça, c'est incontestable.
Avec la perte donc de Mossoul en juillet dernier, Régis Le Sommier, ce qui vaut pour l'Irak vaut aussi pour la Syrie aujourd'hui, même si la victoire n'est pas encore proclamée, même si les Russes, le ministre russe de la Défense, alors c'était le 7 décembre, c'est-à-dire 2 jours avant le Premier ministre irakien, qui annonçait qu'il n'y avait plus aucune localité ou région de Syrie qui se trouvait sous le contrôle de l'État islamique. Mais là aussi, une perte de territoire importante.
Oui, alors je mettrai un petit bémol par rapport à l'Irak. Effectivement, la situation de l'État islamique en Irak est quasiment, bon, territorialement, elle n'existe plus. En Syrie, il reste quand même néanmoins des poches. Il reste des parties de désert du côté de Al-Boukamal, c'est-à-dire vraiment très proche d'Al-Qaïm, de la frontière irakienne. Là, il y a encore des poches qui sont tenues par l'État islamique. Il y en a aussi dans la région d'Assaka. Là, c'est du côté des Kurdes, là où ont été arrêtés d'ailleurs les djihadistes français Thomas Ardoin et deux, trois autres qui venaient de la filiale de Toulouse. Donc dans cette zone-là, il y a encore des zones tenues par l'État islamique. Il y en a aussi, il reste encore le quartier de Yarmouk, une partie du camp de Yarmouk qui est à Damas, qui est tenu par un groupe affilié à l'État islamique. Vous en avez aussi, vous avez une présence de l'État islamique avec le groupe Khalid bin Walid, qui est un groupe affilié qui a fait allégeance à l'État islamique, du côté de Dera dans le sud. Et puis dans la zone d'Idlib aussi, qui est la plus grosse poche où la rébellion syrienne est présente aujourd'hui, il y a des forts combats, il y a une présence aussi de l'État islamique, il y a un territoire qui est tenu par l'État islamique. Mais ce sont des petites poches comme ça, et on peut dire que globalement, par rapport à ce que l'État islamique a tenu en Syrie, c'est-à-dire pratiquement un tiers du territoire pendant un moment, il n'y a plus de présence urbaine, ça c'est exact, les Russes l'ont constaté, et on peut pas le dire que c'est faux. Et puis il reste ce retour, ce que l'État islamique avait prophétisé, c'est-à-dire à ce qu'ils appelaient le désert sans ville. Ils sont dans cette perspective où ils ont des présences et ils peuvent agir encore.
Alors, ce qui permet d'ailleurs d'évoquer victoire ou de relativiser un petit peu ce terme, d'ailleurs, Gérard Chalian, c'est sans doute aussi le point de comparaison que l'on choisit. Celui, a priori, qu'on a envie de choisir, c'est 2014, c'est-à-dire qu'il semble être le moment où l'État islamique est le plus combatif, le plus agressif et le plus conquérant.
Oui, par rapport au triomphe de 2014, bon, aujourd'hui, c'est une déroute. Pourquoi cette déroute? Ben, entre autres parce que M. al-Baghdadi a commis l'erreur de prétendre territorialiser une partie de ce qu'il avait contrôlé. Or, quand on est une guérilla et qu'on a en face de soi des États, comme par exemple les États-Unis ou la Russie, ou bien l'État irakien ou l'État syrien, c'est-à-dire des gens dotés d'une aviation, des gens dotés de tanks, d'armements lourds, d'artillerie, on ne territorialise pas parce qu'on est incapable, sur la distance, de tenir. C'est absolument impossible. Jamais, par exemple, les Vietnamiens, qui sont quand même les grands artistes de la guerre de guérilla du XXe siècle, n'ont prétendu, ni du temps des Français, ni du temps des Américains, avoir territorialisé quoi que ce soit. Ils contrôlaient la population, ils étaient les maîtres du pays la nuit, et puis le jour, bon, ben, les autres se promenaient comme ils voulaient, jusqu'à ce qu'une embuscade leur arrive sur le dos.
Mais est-ce qu'on Gérard Chalian, est-ce qu'on est sûr du coup, qu'il s'agissait véritablement d'un projet de territorialisation, ou bien est-ce que ça n'était peut-être qu'une étape pour l'État islamique dont les dirigeants savaient peut-être très bien que finalement, ils ne pouvaient pas gagner cette guerre sur le strict terrain militaire? Enfin, en tout cas, dans le cadre d'une guerre classique, disons.
Ce qu'ils ont annoncé, c'est la frontière entre la Syrie et l'Irak n'existe plus. Nous avons territorialisé. Les journalistes, enfin en tout cas certains d'entre eux, ont dit 40% du territoire est contrôlé. C'est grand comme la Grande-Bretagne, en oubliant de dire que la majeure partie de ces territoires étaient désertiques. Qu'est-ce qu'ils contrôlaient en fait? Ils contrôlaient un morceau de frontière entre la Turquie et la Syrie, entre Azaz et Jarablus, grâce d'ailleurs à la Turquie qui les a sérieusement aidés à tous égards. Et puis, ils ont à peu près 600 kilomètres, peut-être 700, le long de l'Euphrate, c'est-à-dire relativement loin de ce que géographiquement on appelle la Syrie utile, c'est-à-dire la Syrie des villes. Bon, c'était une organisation remarquable, que j'appellerais, moi, révolutionnaire dans sa technique, même si elle n'est pas révolutionnaire dans ses buts. Mais ils se sont admirablement battus, ils ont beaucoup été aidés, leur tunnel était extraordinairement remarquable, c'était pas du tout des petits tunnels comme du temps des Vietnamiens où il fallait se glisser à l'intérieur avec difficulté, non, ben, c'était des véritables constructions. Bon, et ils ont en plus beaucoup fait pour tenir la population, soit les adultes par une relative terreur, et les jeunes entre 8 et 18 ans par le prestige et l'endoctrinement. Bon, bah, ils ont perdu. Ils ont perdu. Ceci dit, ils vont survivre. On ne liquide pas une idéologie et c'est une organisation de très grande qualité où on a tué beaucoup de monde, mais il en reste et on va voir ailleurs ce qu'ils arrivent à faire.
Et on va voir justement dans le cadre de cette émission comment l'État islamique cherche aujourd'hui à se redéployer. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut continuer à parler d'État islamique. Je sors du débat purement journalistique, mais c'est vrai que cette notion d'État, en tout cas aujourd'hui, elle ne tient plus beaucoup. Gérard Chalian vous disait, ils se sont remarquablement battus. Myriam Benrad, est-ce que ça peut atténuer aussi la portée de la défaite de Daesh, le fait d'avoir quand même réussi à combattre les forces russes, les forces occidentales, les forces de Bachar al-Assad, d'avoir tenu assez longtemps. Finalement, Mossoul est tombé rapidement lorsque c'est Daesh qui s'en est emparé. Mossoul est tombé beaucoup plus lentement lorsqu'il a fallu la reprendre à l'État islamique.
Oui, c'est une question intéressante parce qu'en fait, elle touche à la manière dont eux, effectivement, perçoivent tout cela. Bon, il y a eu un moment d'euphorie, de triomphalisme très clair en 2014, mais les défaites qui ont suivi ne sont absolument pas considérées, là je parle vraiment des djihadistes endurcis, des idéologues, comme des défaites, comme la fin du groupe. Au contraire, les djihadistes présentent ces revers comme des épreuves auxquelles les croyants, qu'ils se présentent comme tels, hein, les vrais musulmans qu'ils sont ou qu'ils prétendent être, font face avec cette coalition, comme vous le disiez, réunissant les États-Unis, la Russie notamment, et des dizaines d'autres pays. Donc ça, c'est important parce que ça montre bien que ce n'est pas fini. Enfin, on a compris de notre côté, je pense, que cette insurrection allait continuer, mais de leur côté, il y a ce jusqu'au boutisme qui est très présent, qui s'exprime aussi dans les dernières vidéos, les derniers communiqués qui ont été réalisés par l'État islamique, qui ont été diffusés par le groupe. Et puis au-delà, oui, il y a toute une génération tout de même qui va garder le souvenir de cette organisation militante, radicale. Concernant les combattants qui ne sont pas morts, on a des aguerris du djihad, on a des gens qui sont très charismatiques. Et il faut très peu de ces hommes pour radicaliser de nombreuses autres personnes, qu'on parle des plus jeunes ou qu'on parle de ceux qui ont déjà combattu. C'est d'ailleurs aussi le cas concernant nos propres combattants. Ça a été mis en avant, d'ailleurs, là, à la fin du mois, par le secrétaire d'État à la Défense américain, qui reconnaissait qu'il faut très peu de djihadistes aguerris, endurcis, pour maintenir en vie la dynamique. Donc c'est là qu'à mon avis, il faut effectivement faire tout un travail après sur l'idéologie et puis sur les terrains du Moyen-Orient, la reconstruction. Parce que s'il n'y a pas de reconstruction, c'est le vide qui va perdurer, qui va permettre à ces groupes, à ce groupe en l'occurrence, de se redéployer, de se reconstituer.
Est-ce qu'on peut dire en tout cas, Régis Le Sommier, que cette perte territoriale, qui est une perte extrêmement importante, est une perte malgré tout à relativiser au regard de l'impact qu'a pu avoir alors justement la combativité des soldats de l'État islamique et la diffusion de son idéologie?
Moi je crois qu'il y a dans chaque guerre un aspect transformationnel. Quand en couvrant la bataille de Mossoul par exemple, moi j'ai pu me rendre compte que vous aviez vraiment, même si l'Irak est un puzzle complètement éclaté, dont justement l'État islamique a profité de l'éclatement et de la mise entre parenthèses de l'indexation, en fait, d'une certaine façon, de la disqualification de la communauté arabe sunnite. L'Irak est un puzzle qui a du mal à se mettre en place, mais il y a eu quand même, avec cette armée irakienne, dont les pertes ont été absolument colossales, hein, vous le rappeliez tout à l'heure, soit sur certaines divisions, c'est plus de 40% des effectifs, je pense en particulier aux forces spéciales du ministère de l'Intérieur, donc les unités du contre-terrorisme. Donc c'est colossal l'effort qui a été fourni. Et ce qu'on pouvait quand même constater, c'est que quand je dis transformationnel, quand vous regardez aujourd'hui d'où est parti le premier ministre irakien et où il se situe aujourd'hui, chaque fois qu'il fait une conférence de presse, d'ailleurs il est en uniforme, il y a quand même un côté martial qui convient bien, il faut le rappeler, à l'histoire politique et sociologique de l'Irak. C'est-à-dire qu'on a tendance en France à ne pas considérer que c'est l'importance de l'armée dans ces pays. Et là, c'est véritablement le retour de l'armée irakienne. Et quand je dis ça, ça veut dire il y a eu un aspect où l'État islamique a été défait. D'une certaine façon, vous avez un phénomène aussi comparable en Syrie, avec le retour de l'armée syrienne, d'une certaine façon, même si elle a beaucoup souffert, même si elle a été aidée d'un certain nombre de milices, etc. Elle a réussi, par exemple, dans la région de Deir ez-Zor, à retourner les tribus de son côté, tribus qui avaient fait allégeance à Daesh à l'époque et qui ont été retournées intelligemment. Donc il y a eu des choses qui se sont produites et d'une certaine façon, on peut dire que Daesh a perdu son sanctuaire. C'est important parce que on a un précédent. Vous parliez d'Al-Qaïda, vous évoquiez Al-Qaïda tout à l'heure. En 2001, Al-Qaïda a perdu son sanctuaire afghan. Tout à coup, ça a été beaucoup plus difficile pour l'organisation d'organiser des choses. Hein. Rappelons quand même que dans le sanctuaire afghan, dans les camps à Kandahar notamment, c'est là qu'ont été formés les kamikazes du 11 septembre. C'est là qu'ont été dirigés un certain nombre d'opérations et d'attentats à l'étranger. La même chose s'est produite avec l'État islamique dans la région d'Al-Bab, par exemple, où il y avait les Amn al-Khalij, qui était le bureau des opérations extérieures dirigé par Adnani. Tout ça a planifié d'une certaine façon un certain nombre d'attentats spectaculaires en Turquie, en Occident, le Bataclan, etc. Et tout ça a été préparé. C'est plus difficile aujourd'hui pour l'État islamique qui est dans un état de désorganisation parce qu'il a perdu ce sanctuaire. Donc d'une certaine façon, renforcement des États, vous avez raison, on va voir comment la reconstruction dans ces deux pays, la Syrie et l'Irak en particulier, va se produire. Mais il y a quand même un retour de l'État syrien et un retour de l'État irakien de l'autre côté qui fait que c'est plus difficile aujourd'hui pour l'État islamique. Le message est là, les graines ont été plantées, des guérillas peuvent arriver. Internationalement, il y a toujours la menace terroriste. Il y a le problème du retour de combattants endurcis et on va voir ce qu'ils vont faire et comment ils vont pouvoir revenir chez nous. Et ça, ça va être des vrais enjeux. Mais globalement, il y a quand même eu une défaite majeure sur un outil fantastique parce que regardez la propagande de l'État islamique, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent.
Des problèmes d'organisation, Gérard Chalian, des problèmes aussi peut-être de financement, même si on va le voir, l'État islamique se redéploie dans d'autres zones. Cette assise territoriale sur l'Irak et sur la Syrie lui permettait quand même d'avoir aussi une forme d'autonomie financière qui est peut-être beaucoup plus compliquée à assurer aujourd'hui.
Oui, bien sûr, le pétrole a été très important, sans compter l'aide qui a été reçue à un moment par la Turquie, sans compter l'aide du Golfe, bien que celle-ci soit déliée. Bon, tout ça est à reconsidérer. Non, ce qu'il faut dire, c'est que en noyau, dans la contre-insurrection qui est exercée contre le djihadisme, la seule chose qui compte, c'est dénier à l'adversaire djihadiste la victoire. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que les troupes américaines restent en Afghanistan. Qu'est-ce qui a apporté des dizaines de milliers de militants en Irak, voire en Syrie, c'est la victoire de Mossoul en 2014. C'est-à-dire que lorsque la victoire paraît être au bout du fusil, les gens viennent. Quand, au contraire, bon, on est sur le retrait, même quand on s'est battu avec beaucoup d'héroïsme, bon, l'aura reste, on a sauvé ce qu'on peut appeler l'honneur, mais de toute façon, ça excite moins les gens. Donc ce qu'il faut, c'est dénier absolument la victoire partout, à toute espèce de tentative. Par contre, on ne pourra rien faire, et parce qu'il n'y a pas de sécurité absolue, on ne pourra rien faire sur le fait que se multiplient ici et là des attentats. Il y en a en Afghanistan, ils sont très bien au Nangarhar, au Kunar, il y en aura en Libye, ils en ont fait un excellent, si je puis me permettre de dire, dans le Sinaï. Bon, voilà, mais en fin de compte, si vous voulez, militairement, c'est de la blague. Militairement, c'est pas important un attentat, même si vous tuez 450 personnes. Ce qui était important, c'est de tenir un sanctuaire et à l'abri de ce sanctuaire, de pouvoir former un tas de trucs, de créer des structures, etc. Bon, une fois que vous avez écrasé le sanctuaire, vous créez des problèmes très sérieux pour comment faire, comment se refaire, etc. Voilà, ils en sont là.
Alors comment se refaire et comment refaire aussi un pays à l'échelle de l'Irak, par exemple, Myriam Benrad, c'est-à-dire maintenant que ce sanctuaire n'existe plus, qu'est-ce qu'on fait des combattants qui ont combattu aux côtés de l'État islamique et notamment des combattants irakiens? On sait qu'il y a un certain nombre de cadres qui étaient d'anciens cadres du régime de Saddam Hussein qui avaient rejoint justement cette organisation. Comment faire pour ne pas répéter les mêmes erreurs que par le passé finalement?
Bon, alors actuellement, politiquement, concernant le traitement des anciens combattants, enfin des combattants qui ont été arrêtés par les autorités irakiennes, par les forces irakiennes, je ne parle pas de ceux qui ont été tués parce que de nombreux cadres militants opérationnels l'ont été dans les combats et dans les frappes aériennes de la coalition. Actuellement, politiquement, c'est la revanche. Donc concrètement, ça se traduit par des procès expéditifs. des pendaisons à mort par dizaines, des condamnations à la perpétuité pour les complices ou tous ceux qui ont été plus ou moins associés directement à ce groupe. Et ça crée évidemment des frictions avec les Nations Unies, avec un certain nombre d'associations, d'organisations de défense des droits de l'homme, avec la Cour pénale internationale qui s'est déjà adressée au gouvernement irakien en précisant que sur un certain nombre d'atrocités, notamment concernant le génocide yézidi, c'était la compétence de la Cour pénale internationale et d'autres juridictions et non pas la compétence irakienne. Ce à quoi les Irakiens répondent, en attendant, nous avons fait le plus gros du travail avec nos forces au sol, donc nous allons juger ces gens. Bon, admettons aussi tout de même que concernant les gouvernements étrangers, notamment ceux dont certains ressortissants se trouvent en Syrie, en Irak, à commencer par la France, on n'est pas forcément pressé non plus de les récupérer. Donc ça, on est un peu sur une forme d'hypocrisie, à savoir double langage. Hein. La question des droits de l'homme, le traitement expéditif par les autorités irakiennes, en même temps, très peu finalement de volonté de les récupérer. Cela étant, comme le disait Gérard Chalian et comme l'a dit Régis Le Sommier, oui, un certain nombre de ces combattants restent dans la zone. D'ailleurs, on a parlé du redéploiement en Afghanistan, dans le Sinaï, même en Libye, on ne parle pas de la Libye, le Sahel, l'Afrique, la Somalie, le Yémen. En réalité, dans la zone syro-irakienne elle-même, ils sont toujours présents. Là, il y a eu un attentat très important à la province de Deir ez-Zor par un djihadiste allemand. C'était hier encore. Donc, pour vous dire que tout cela n'est pas fini, hein, ce qui remet aussi assez largement en cause la question de la victoire. Et alors, au niveau de l'impact pour le pays, si on prend le cas de l'Irak, si ça pose la question de la reconstruction, qui a besoin d'une forme de stabilité pour se réaliser.
Ça veut dire quoi? Ça pourrait passer par une forme d'amnistie?
Alors ça, concernant la justice, on n'est pas du tout dans une logique d'amnistie. Comme je dis, pour l'instant, c'est une logique de représailles, de revanche. Donc les autorités irakiennes se vengent parce que l'idée, c'est aussi de rendre justice aux familles des victimes de l'État islamique. On a par ailleurs un gouvernement à dominante chiite. Évidemment, il y a des relents aussi de confessionnalisme dans les décisions qui sont aujourd'hui prises par le gouvernement et par les cours de justice. Sans compter que les personnels, ça c'est important, si on va un peu dans le détail, les personnels de la justice irakienne, les juges, les enquêteurs, etc., ont fait les frais de la violence djihadiste. Ils ont été en fait ciblés dès le début. Hein, dès qu'on a commencé à les mettre un peu sur l'antiterrorisme, il faut savoir que dans les années 2000-2007, par exemple, on avait des liquidations, des assassinats très couramment pratiqués contre les juges, les magistrats, etc. Donc ces gens aussi se vengent là actuellement. Mais concernant la reconstruction, là je vais finir là-dessus rapidement, on est sur des milliards de dollars, c'est estimé à peu près, et on peut aller au-delà à mon avis, 100 milliards de dollars. Les États-Unis, l'administration Trump, ne veulent pas s'engager au-delà. Donc pour l'instant, c'est plutôt les Irakiens, et même, je dirais, au niveau très local, les habitants, ceux qui reviennent vers leurs terres, vers leurs maisons, qui essaient de au jour le jour de reconstruire. Mais tout de même, la persistance de l'État islamique, elle pose un problème. Alors, Gérard Chalian a mentionné la dimension militaire, mais au niveau de la stabilisation, si on a ce terrorisme qui se poursuit, comment remettre en état des villes, comment restaurer la sécurité, permettre le retour des enfants dans les écoles, etc. Bon, ça peut paraître prosaïque, mais c'est la première demande aujourd'hui des Irakiens sur le terrain. L'eau, l'électricité, les services, une stabilité. Et je vais juste finir sur une chose qui est passée inaperçue. Les États-Unis ont annoncé, donc à la fin décembre, qu'ils allaient tout de même augmenter le nombre de personnels civils en Syrie. Donc c'est qu'il y a bien quand même compréhension du côté américain de l'importance de la reconstruction et des missions civiles, dont on ne parle pas mais qui sont fondamentales si on veut avoir une approche, encore une fois, systémique de long terme contre l'État islamique et contre toutes les autres factions terroristes.
Ce qui serait sans doute un changement important par rapport au fait que cet aspect-là avait sans doute été un peu négligé, en tout cas mal négocié auparavant. Régis Le Sommier, dans votre ouvrage Daesh, l'histoire, vous aviez notamment écrit ceci. Détruire Daesh ne résoudra pas le problème de ce sunnistan qui s'est créé entre la Syrie et l'Irak. La chute de l'État islamique passera par la prise en compte du pays qu'il a créé.
Oui, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure à cette phrase indirectement sans y penser, dans le sens tout est une affaire de tribus. Toute la raison, on évoquait la région de Deir ez-Zor et grand espace finalement entre la Syrie et l'Irak et qui est quasiment intégralement de confession sunnite. Là, oui, il y a des deals à faire. En fait, vous faites pas, on peut pas garder. Déjà à l'époque de Saddam Hussein, Saddam Hussein tous les ans faisait un tour des tribus. Il consacrait du temps à aller dans chaque tribu pour obtenir l'allégeance des tribus. C'est une question très importante. Parce que, par exemple, on évoquait la chute de Mossoul en 2014. Au printemps 2014, la bataille a été ultra rapide. Pourquoi ? Parce que l'État islamique avait réussi à retourner un certain nombre d'acteurs clés. Et évidemment, parmi ces acteurs clés, il y a les chefs de tribus. Donc, en s'associant avec eux, d'une certaine façon, ils avaient réussi, en fait, à se faciliter le travail, puisque militairement l'armée irakienne était évidemment à l'époque pas en état de combattre, ou en tout cas n'avait pas eu un degré de formation suffisante, et elle s'est complètement débandée devant quelques 500 000 combattants qui ont conquis Mossoul comme ça.
Mais est-ce que ça veut dire aussi, Régis Sommier, qu'il y a des choses qui ont été mises en place par l'État islamique dans ces régions et qui sont des choses qui vont être difficiles à enlever, même sans la présence de Daesh?
La question, c'est que quand vous regardez l'état de la vieille ville de Mossoul aujourd'hui, vous pouvez pas vous dire que si vous avez été habitant de l'État sous contrôle de l'État islamique, et même si vous avez pu être sympathisant de l'État islamique au moment où il est arrivé, que le résultat soit grandiose. Cette défaite, l'État islamique a amené un cortège de destruction et de mort d'une certaine façon. Mais au départ, quand il est arrivé, il a été perçu de façon positive. Il faut se rappeler que en 2011, au moment du départ un peu précipité des Américains, qui était une promesse électorale de Barack Obama, eh bien, le gouvernement de l'époque, conduit par Nouri al-Maliki, donc un premier ministre très sectaire, avait véritablement ostracisé cette communauté arabe sunnite, et que dans des zones comme Mossoul notamment, ça a été ressenti comme une injustice terrible. Évidemment, en Anbar également, Fallujah, je rappelle Fallujah et Ramadi, par exemple, Fallujah est une ville qui s'est soulevée et qui s'est donnée elle-même à l'État islamique. Il n'y a pas eu d'invasion de l'État islamique. Il y en a eu une à Mossoul qui est venue de la force que l'État islamique avait réussi à développer en Syrie. Ça a été une conquête extrêmement méthodique. L'État islamique a été remarquable d'intelligence militaire à cette époque, mais il a bénéficié, et c'est ça mon point de vue, de leviers dans la population. Et ces leviers ont perçu positivement son arrivée, de même que les Afghans avaient perçu positivement aussi l'arrivée des talibans, qui leur permettait d'échapper à l'anarchie des seigneurs de guerre. Je parle d'une période évidemment antérieure. À chaque fois, ce côté unificateur d'une doctrine globale forte, mais qui permettait aux gens finalement d'échapper au diktat de Bagdad. En fait, c'était ça. Le problème, c'est que la communauté arabe sunnite s'est vue privée du pouvoir qu'elle avait à l'époque de Saddam Hussein, et puis embarqué dans une sorte de sectarisme par les chiites arrivés au pouvoir. Et ça, c'est une chose qu'il va falloir refaire. C'est une chose, évidemment, le Premier ministre aujourd'hui irakien a une attitude différente, mais ça va demander du temps. La province de Ninive, dans laquelle Mossoul est la capitale, est extrêmement fragmentée, avec énormément de groupes qu'il faut faire revenir dans la nation irakienne. Et ça, c'est un véritable défi. Je suis tout à fait d'accord, la reconstruction est aussi, si je peux ajouter un mot pour terminer sur la reconstruction, en Syrie, je peux vous donner quelques chiffres, la ville de Homs par exemple est détruite à peu près à 25%, la ville d'Alep à 31%, celle de Deir ez-Zor à 41%, Raqqa, on avoisine les 70%, et Mossoul, on est aussi à peu près à 30%. Vous imaginez ce que ça peut faire sur des, je pense pour Alep et Mossoul, si vous voulez, ces deux villes qui ont à peu près la même structure, c'est 190-200 km², c'est deux fois la taille de Paris. Quand vous avez 31% de tout ça qui est détruit, c'est beaucoup, beaucoup de destruction. Effectivement, les besoins, moi j'étais à Alep il y a un mois, il n'y a pas d'hommes pour reconstruire. Vous avez des gamins et des vieillards qui sont dans les ruines et qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de remettre en marche les souks, par exemple. Dans les souks, vous avez quelques épiceries, beaucoup c'est étonnant, beaucoup de magasins d'informatique et de connectique et de téléphonie. Ça marche très très bien, ça a déjà repris. Mais sinon, pour reconstruire les édifices, vous n'avez pas d'hommes. Les hommes sont où? Ils sont soit dans l'armée en train de combattre, soit à l'étranger. Et en Irak, malheureusement, c'est un peu le même problème. J'ai pas été à Mossoul voir ce que c'est, mais de ce que j'ai pu en voir, en lire, effectivement, c'est encore un problème crucial. Il n'y a pas de force pour reconstruire ces villes, et ça va être le grand défi des 10 prochaines années.
Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour discuter de ce que l'on imagine de l'avenir de l'État islamique. Je vous propose peut-être, justement, pour terminer la discussion, de quitter les terrains strictement irakiens et syriens pour voir comment, justement, l'État islamique aujourd'hui aujourd'hui se réorganisent ailleurs. Gérard Chalian, vous disiez, on n'est plus dans des combats militaires, on est dans des attentats, ça n'a strictement rien à voir. Est-ce que ça veut dire que le côté unificateur qu'a pu avoir Daesh et qu'évoquait Régis Le Sommier, ce côté unificateur, cette organisation n'est pas en mesure aujourd'hui de le faire jouer sur d'autres terrains? On parle beaucoup aujourd'hui de l'Afghanistan, on parle beaucoup aujourd'hui des Philippines comme des terrains pour un renouveau de Daesh. Est-ce que c'est quelque...
Dans la pratique, aux Philippines, il y a eu une insurrection à Mindanao qui a été écrasée par l'armée philippine. C'était une affaire de diversion. Lorsque l'État islamique était en train de perdre, il a ameuté tous ces réseaux en disant « bougez, c'est le moment ». Seulement, c'était quand même que les combats d'arrière-garde, ce n'est pas une nouvelle donne qu'ils étaient en train de créer. Bon, tout ça, ça va être pour eux un véritable problème. Ceci dit, il y a quand même une chose qu'il faut que nous disions sur le fait que les sunnites ont été marginalisés. Ne l'oublions pas. Ce sont les Américains qui ont marginalisé les sunnites. C'est la politique américaine en 2003, c'est la politique de M. Paul Bremer qui a marginalisé complètement les sunnites en disant « vous ne ferez pas partie de la future administration ». Et pour les sunnites, c'était en somme « vous remettez le pouvoir en Irak entre les mains de chiites que, à tort ou à raison, nous estimons être des hérétiques, et à des Kurdes qui ne sont ni arabes, ni véritablement des citoyens dans la mesure où nous les avons combattu depuis 60 ans. » Vous voyez, ça c'est la perception des sunnites. Bon, maintenant tout ça, il va falloir le recoller, il va falloir avoir un après-guerre. Ça prend du temps, hein. Même en Europe, l'après-guerre s'est pas passé comme ça en quelques semaines. Ça va être long. Quant à un autre problème qu'il faut quand même soulever, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces de ceux qui sont pris, qui sont des otages, qui sont des prisonniers. Est-ce qu'on va leur dire, vous êtes les re-bienvenus, etc. Non, disons-le très franchement, quoi. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Cette guerre menée par les djihadistes n'avait pas d'autre raison d'exister que la victoire complète. Il n'y avait rien à négocier avec eux. Ils ne voulaient rien, sauf gagner à l'échelle, disons, d'une certaine mondialisation de leur combat. Très bien, parfait. Je veux dire, quand ils ont perdu, il n'y a pas particulièrement de quartier à faire. C'est comme ça. Je veux dire.
Mais est-ce qu'ils n'ont pas gagné en partie, justement, Gérard Chalian? Est-ce que
c'est de la blague.
Gérard Chalian, est-ce que cette mondialisation de leur combat, ça n'est pas quelque chose, justement, auquel on assiste aujourd'hui, avec il y a quand même un certain nombre de groupes qui se sont affiliés à l'État islamique. J'ai évoqué l'Afghanistan, les Philippines, mais on pourrait aussi parler d'un certain nombre de pays africains. Le Nigeria, par exemple, avec Boko Haram qui a prêté allégeance à l'État islamique. Est-ce que ça ne peut pas être considéré quand même comme une victoire de cette organisation?
Oui, c'est une victoire parce que au moment où en 2014 ils étaient triomphants, les gens qui appartenaient à Al-Qaïda ont fait allégeance à celui qui paraissait le plus fort. C'est tout. Maintenant qu'ils ont perdu, il faut qu'ils se débrouillent tout seuls. Je veux dire que ça n'a pas d'autre sens que vous faites une publicité par la victoire, et lorsque vous êtes victorieux, les gens se raccrochent à votre wagon. Quand vous avez perdu, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, par exemple, qui est content parmi les gens qui sont des djihadistes? C'est Al-Qaïda. Il se dit, parfait, ce concurrent qui nous a véritablement doublé, maintenant il est vaincu, on va pouvoir retravailler et essayer de reconstituer ceci, cela.
Myriam Benrad, vous êtes d'accord avec ça? Vous qui avez consacré, votre livre sort le 4 janvier prochain au djihad. Alors le djihad qui n'est pas uniquement, évidemment, c'est tout l'intérêt de votre livre, quelque chose qui se consacre au combat. Ça va bien au-delà, évidemment. Mais en tout cas, est-ce que les malheurs de l'État islamique peuvent tourner au profit d'autres organisations comme Al-Qaïda, dont on entendait beaucoup moins parler, évidemment, ces dernières années?
C'est un chapitre que je consacre dans l'ouvrage à la question de cette sphère, de cette nébuleuse djihadiste qui est très complexe. Évidemment, l'État islamique a été le principal concurrent à déclasser, en quelque sorte, Al-Qaïda en incarnant une nouvelle génération, djihadistes, ça c'est très clair. Bon, ils n'ont d'ailleurs pas fait mystère de leur rivalité, de leur désaccord, puisqu'ils se sont répandus à coups de communiqués adverses pour faire état de leurs divergences, etc. Et d'ailleurs, ça c'est quand même intéressant.
Ils se sont fait la guerre aussi.
Ils se sont fait la guerre sur le terrain. En Syrie, ils continuent à se faire la guerre. C'est d'ailleurs aussi valable pour l'Irak, on en parle moins, mais il y a eu aussi en 2014 une liquidation des dernières factions qui étaient plus ou moins proches, soit des islamo-nationalistes, soit de la tendance Al-Qaïda par l'État islamique. Mais ça c'est intéressant parce que quand même ça montre, si vous voulez, Al-Qaïda va rester de toute façon une force en Syrie. Un des nouveaux fronts pour 2018 va certainement d'ailleurs opposer cette organisation au régime syrien. Mais ce qui est quand même intéressant, si on prend les trois dernières années, ou même au-delà, le conflit syrien depuis 2011, on voit tout de même que ces factions aussi s'affaiblissent elles-mêmes. Parce qu'il y a aussi il y a l'intervention, si vous voulez, de la coalition, leur opposition à l'Occident, aux États-Unis, à la Russie. Mais enfin, si on prend ces logiques, ces dynamiques internes à la nébuleuse djihadiste, on voit très bien que le djihadisme a souvent joué contre lui-même et continuera de jouer contre lui-même. Et c'est aussi, à mon avis, une des clés d'explication de la victoire, entre guillemets, aujourd'hui, de l'armée syrienne, assistée d'un certain nombre de miliciens avec le soutien des Russes. Ça ne peut pas être simplement attribuable aux forces adverses. Les djihadistes ont toujours et continueront, et c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, de jouer contre eux-mêmes par cette cause hyper concurrentielle, ces rivalités idéologiques, tactiques, ces guerres pour les ressources aussi, pour les hommes, pour les ressources. Et ça dure depuis l'Afghanistan, en fait, il n'y a rien de nouveau. C'est la perpétuation qu'on observe aujourd'hui avec l'Irak, la Syrie et d'autres terrains, la Libye que j'ai mentionné notamment.
Et d'ailleurs, pour compléter dans l'histoire de la guerre syrienne, de cette guerre qui dure depuis 6 ans, l'une des principales, même la principale victoire des rebelles, en fait, donc modérés et islamistes mélangés, a été quand ils ont réussi à former un front uni qui s'appelait Jesh al-Fatah, donc l'armée de la conquête. C'est là qu'ils ont véritablement pu conquérir la province d'Idlib, Jish al-Shughour, enfin les grosses villes importantes et une partie d'Alep. Et quand ils ont eu ce front uni, là ils ont bénéficié à l'époque d'armes des Saoudiens et de la CIA, notamment des missiles TOW anti-tank qui leur ont permis vraiment d'aller contre les blindés de l'armée de syrienne. Et donc à cette époque-là, quand ils présentaient un front uni, ils ont obtenu des succès. Depuis, la province d'Idlib effectivement sera le grand combat de l'armée de l'année 2012 pour l'armée syrienne. D'ailleurs, les Russes n'en font pas mystère. Ils se sont dit maintenant ils sont passés dans la phase la bataille d'Idlib. Qui a commencé d'ailleurs, l'offensive a commencé lundi dernier. Donc elle se fait contre qui ? Elle se fait contre une myriade de groupes, mais qui ne combattent pas tous. En ce moment, c'est effectivement Ayat Tahrir al-Sham, qui est la forme actuelle du front al-Nusra, qui était Al-Qaïda. Ayat Tahrir al-Sham combat contre l'armée syrienne, et d'autres groupes ont plus ou moins dit qu'ils combattraient, mais n'ont pas encore décidé. Donc il y a un front complètement désuni. Donc ce que vous dites, effectivement, sur cette... par exemple, il y a une grosse distance entre Ahrar al-Sham et Ayat Tahrir al-Sham, qui sont deux groupes rivaux d'une certaine façon et qui sont tous les deux d'obédience islamiste. Donc il y a cette difficulté, effectivement, je suis tout à fait d'accord, sur le fait que ce sont des groupes qui, une part de leur faiblesse, c'est ces rivalités permanentes, mais ils ont aussi cette force, qui savent aussi se reconstituer à des moments où on ne les attend pas. Ça, c'est aussi une de leurs forces.
Gérard Chalian, pour conclure, en moins d'une minute, si vous pouvez, l'État islamique reste une organisation quand même toujours dangereuse, et notamment dangereuse pour nous, Européens.
Écoutez, pour nous, Européens, ce qui est le plus dangereux, je dirais, c'est pas tellement l'État islamique, c'est toutes les forces qui, à l'intérieur de notre société, au nom de l'islamisme, travaillent à saper un certain consensus dans la société française, qui cherche à créer un communautarisme, qui travaille pour créer au maximum la rupture, le « eux » et « nous ». C'est ça, notre véritable problème. Et ça, pour moi, ça me paraît infiniment plus important que les bombinettes qui vont lancer à gauche et à droite et qui, militairement, ne modifient pas le rapport de force mondiale. Nous, ça nous concerne.
Ah là, les bombinettes, on reconnaît bien là le style inimitable de Gérard Chalian. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à cette discussion. Donc Gérard Chalian, Régis Le Sommier, Myriam Benrad, vos livres respectifs. On peut les retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Leïla Saïdi, Antoine Tricot, Marine Beccarelli, Philippine Lebré, Antoine Dulster. Émission réalisée par Alexandra Longuet avec la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille. Demain, nous parlerons de fiscalité à partir de 18h20. Si la CSG n'existait pas, est-ce qu'il faudrait l'inventer ? Eh bien, ce sera le thème de notre débat.